Bonjour, c'est avec un plaisir renouvelé que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont nous vous remercions. Nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui « Les chevaux en Afrique ». Effectivement, on trouve des chevaux pratiquement sur la quasi-totalité du continent africain. Virginie, alors, sont-ils des animaux aborigènes ou ont-ils été introduits par les hommes au cours des siècles ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que les premiers équidés proviennent des contrées asiatiques. Donc, ce ne sont pas des animaux aborigènes et donc seraient arrivés sur le continent africain au moment de la dernière glaciation, il y a 25 millions d'années. Ce seraient des onagres, c'est-à-dire la famille des ânes, ou des couagas, famille des zèbres. Ils disparurent au néolithique, c'est-à-dire environ 5000 ans avant notre ère, et ce n'est que vers 1200 que l'on voit réapparaître des chevaux, comme on peut le voir sur les fresques du Tassili.
1200 ou moins 1200 ?
Moins 1200, pardon Michel.
D'accord.
Moins 1200. Et ces chevaux sur ces fresques, cette fois, ils sont représentés domestiqués et attelés. Alors, quelle est leur origine? Et il n'est pas impossible qu'une arrivée de chevaux européens ait pu se faire à travers le détroit de Gibraltar. On sait aussi que les relations entre la péninsule ibérique et le Maroc à l'âge de bronze sont suffisamment importantes pour qu'on puisse retenir une possible origine européenne d'une partie des chevaux de l'Afrique du Nord.
Ah oui, européenne.
Oui, exact, par le passage du détroit de Gibraltar. Nous savons également que ce sont les Hyksos, originaires d'Asie de l'Ouest, qui ont domestiqué et attelé le cheval, ce qui leur a permis, entre autres, de prendre le pouvoir en Égypte en moins 1800 avant notre ère.
D'accord, oui, on se souvient tous de cet épisode Hyksos qui avait quasiment failli casser l'Empire égyptien.
Tout à fait. Et puis, il faut attendre 1000 ans plus tard, en moins 218, pour voir les cavaliers d'Hannibal monter sur un cheval qui, cette fois, est bien reconnaissable pour nous. C'est le barbe, en tout cas l'ancêtre du barbe. Originaire de Berbérie, à qui il doit son nom, donc berbère, barbe, en Afrique du Nord. Il va contribuer à la formation des races ibériques et par la même américaine, mais également des races africaines. Donc le Sahara a toujours été une zone d'échange et ainsi le cheval barbe a transité du nord au sud où il s'est adapté dans une zone de savane couvrant le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le nord du Togo, le Bénin, le Nigeria et le Cameroun, donnant naissance à diverses variétés autochtones.
D'accord, donc ça c'était un petit peu, chaque région avait un peu sa façon de croiser ses chevaux, et puis je pense aussi les conditions de nourriture, d'élevage pouvaient effectivement modifier l'apparence
du cheval, comme on va le voir avec certains chevaux qui sont connus. Donc le plus célèbre est le Dongola, originaire de la province du Soudan du même nom. Il semblerait qu'il ait également des gènes des anciens chevaux numides, apparemment très représentés au nord du Cameroun. Les robes qui le caractérisent sont plutôt alzanes, bien que l'on trouve également des sujets bais et noirs. Il a une tête assez forte, ça c'est un peu le barbe, un dos long, des jambes fines et une croupe plate. Ils ont été, ces Dongolas, régulièrement croisés avec des Arabes, des Barbes, des Barbarabes, à tel point que la race a été menacée d'extinction au XXe siècle. Il a été utilisé dans la guerre italo-abyssinienne de 1895 à 1896 et fut également exporté, surprise, en Irlande.
Mon Dieu, ils ont découvert le trèfle.
Autre race, le cheval Fulani, associé au Cameroun et aux nomades du même nom. Petits chevaux très résistants aux robes variées, avec des caractéristiques qui indiquent une origine afro-turque et orientale. Sa tête est longue et petite et sa conformation est fine. C'est un cheval de selle et de bas. Néanmoins, des données génétiques révèlent des origines très diverses qui le rattachent aux chevaux d'Anatolie, aux chevaux du Chiou d'Asie de l'Est, ainsi qu'aux Lusitaniens, aux Lipizzans et aux Arabes. Donc ça nous donne quelques idées justement de tous les échanges qui pouvaient exister.
Un espèce de melting pot
extraordinaire.
Ouais.
Donc c'est bien l'illustration de l'histoire liée au mouvement des races équines. Il faut ajouter également que l'histoire des chevaux d'Afrique orientale et centrale est complexe, car même s'ils descendent du barbe, ils ont souvent vécu à l'état sauvage, ce qui a entraîné des évolutions. Alors, on parlait notamment tout à l'heure de taille, effectivement, diminution de la taille, résistance à la trypanosomiase.
C'est dur à dire.
Oui. Donc, Michel, tu peux nous dire ce que c'est?
C'est pas une sale mouche qui vous pique. Exactement. Et qui vous donne ce qu'on appelle la maladie du sommeil.
Exactement.
Qui est très grave. Enfin, c'est pas de la rigolade.
Non. Les mouches tsetse. Et une adaptation, donc, à un régime plus pauvre. Il semble que ces chevaux, des poneys d'une taille de 90 à 110 cm, existent depuis plus de 1000 ans, selon les données historiques.
Donc tu parles, effectivement, tu penses à, on les trouve représentés sur des grottes ornées.
Tout à fait.
Et alors tu dis quelque chose de plus intéressant ou aussi intéressant en linguistique aussi.
Oui, bah, le nom revient, c'est qu'il est un signe qu'il a été intégré à cette culture.
Oui, il n'a pas fait que passer.
Voilà, il n'a pas fait que passer.
Voilà.
Autre race importante, ce sont les poneys du Niger, du Tchad et du Cameroun. Les peuples de ces régions ont utilisé et élevé des chevaux, essentiellement pour la guerre. Donc on a les Tchamba du Cameroun et du Niger qui utilisaient les poneys qui portent leur nom au cours de raids et d'attaques. Et au Tchad, nous avons le royaume Baguirmi qui possédait une cavalerie dont les chevaux étaient revêtus d'une armure en cuir et côte de maille. Et dans les cérémonies d'aujourd'hui, on voit toujours des chevaux en armure. Au Nigeria, le plateau était peuplé d'hommes dont la culture du cheval est riche. Les chevaux étaient des montures de guerre, mais également utilisés pour payer les dots au cours de cérémonies, ce qui est un signe de richesse. Le peuple Piti utilisait de petits poneys des collines pour chasser le gibier. Malheureusement, il semble que ces populations équines semblent être sur le bord de l'extinction. Alors nous continuons en descendant vers le sud au Lesotho, où on trouve le poney Basuto. C'est un poney dont les sabots sont extrêmement durs, les jambes courtes, le dos long, adapté au terrain rocailleux. La sûreté de son pied l'a rendu très populaire au cours de la guerre des bourgs. Il provient notamment d'un croisement entre les chevaux arabes, perses et pur sang anglais, introduits au XVIIe siècle par les Hollandais et les Portugais. Il semble que ce cheval, le poney du Basuto, est le cheval auquel on faisait référence sous le nom de cheval du Cap. C'est un cheval endurant et intelligent, mais dont il reste peu d'individus.
Alors justement, à ce propos, il y a le compte-rendu de François le Vaillant, qui avait exploré un petit peu la province du Cap. Et il en fait l'éloge dans son ouvrage « Voyage dans l'intérieur de l'Afrique ». Donc il a écrit entre 1781 et 1785. Et effectivement, il faisait ce voyage avec ces fameux poneys, donc cheval du Cap, qui étaient les seuls chevaux avec lesquels, en selle, ils pouvaient s'approcher ou rentrer dans des coins où il y avait des lions. Alors que les autres se débandaient, les bœufs se débandaient, tout le monde se débandait, mais ces chevaux tenaient le coup.
Alors, puisque nous sommes vers tout à fait la pointe sud de l'Afrique, on trouve également dans cette partie méridionale le cheval sud-africain miniature qui fait moins de 90 cm au galop. Au garrot, pardon. En Afrique du Sud, les trois races principales sont le Boerpaard,
le cheval des bourgs,
voilà, le Neutegedacht, il n'y a que moi pour la prononciation, je ne sais pas, et le poney Basuto, dont on vient de parler. Donc le premier est le nom pris par le cheval du Cap après que de nombreux croisements aient été entrepris entre des poneys de Java, des Arabes de Perse, des étalons andalous en provenance d'Amérique du Sud, des purs sang anglais, des chevaux espagnols et même américains. C'est un cheval gentil, beau et endurant. Au cours du 19e siècle, d'autres races seront croisées avec lui, notamment les Hackney, Norfolk Trotters, Morgans et Cleveland Bays. Son adaptation à son environnement en a fait un cheval de guerre bien supérieur aux chevaux anglais pendant la guerre des bourgs. En conséquence, les Britanniques essayèrent de les éliminer. Ça, c'est une tactique bien connue. On se débarrasse des chevaux indigènes. Seuls quelques haras élèvent aujourd'hui des chevaux de cette origine. Quant au Neutegedacht, il s'est développé en tant que race en 1951 pour tenter de sauver le poney Basuto presque éteint à cause des guerres et du grand blizzard de 1902, ainsi que des maladies introduites sur le continent. Il fallait trouver un cheval de selle et de travail adapté aux conditions de vie rurale en Afrique du Sud. Donc des descendants d'un étalon Basuto venu du Lesotho et d'autres chevaux furent achetés et élevés dans une ferme expérimentale. Ce sont aujourd'hui des éleveurs privés qui continuent l'élevage.
Alors, à la suite des chevaux, nous allons suivre le chanteur Youssou N'Dour pour une petite balade en Afrique.
Retour sur le continent sud, enfin sur le continent africain, mais sur la pointe sud, puisque je vais maintenant vous parler des chevaux de Namibie. Ce sont des chevaux sauvages qui vivent dans le désert de Namibie. Il semble qu'ils soient d'origine afro-turque et orientale, des chevaux qui descendent probablement de ceux qui ont été importés dans la région pour des besoins militaires. Ils se sont adaptés à la vie du désert en moins d'un siècle et semblent mieux conserver l'eau que les autres chevaux domestiques, ce qui explique leur survie dans ce milieu.
Oui, parce que le désert du Namibe, c'est vraiment sec.
Ah oui, oui, sec de sec. Oui. Donc, comme on peut le voir à travers tous ces exemples que je vous ai donnés, l'histoire du cheval africain est riche et diverse. Il est monture de guerriers et de rois. Il transporte également les marabouts, donc les hommes...
Le nom qu'on donne aux saints hommes
de l'islam. Oui. Dans les familles royales, un groupe d'hommes s'occupait de l'entretien des chevaux, qu'on appelait les Bambara au Mali, les Sofa, ceux qui nourrissent les chevaux. Dans les familles des marabouts, les disciples ou les esclaves s'occupaient de ces entretiens. Donc les chevaux étaient utilisés pour tous les déplacements et on leur accordait une très très grande considération qu'il est placé même parfois même jusqu'au rang de divinité.
C'est extraordinaire le nombre de chevaux qui ont été divinisés. Alors le cheval était, tu l'as dit formidablement Virginie, et reste omniprésente dans la tradition et la culture du Burkina Faso, en particulier en Afrique et au Burkina Faso. Alors commençons par quelques mots sur ce pays, appelé autrefois la Haute-Volta par la France, qu'il intègre en 1919 avec le statut de colonie fondue dans ce qui était appelé l'Afrique occidentale française. Réunie en 1932 au sein de l'Union française, elle est reconstituée en colonie autonome et reste toujours assujettie à l'Empire colonial français. Ce n'est que le 4 août 1984 que la Haute-Volta acquiert son indépendance et prend le nom de République du Burkina Faso, que l'on pourrait traduire par « le pays des hommes intègre ». Ses habitants s'appellent des Burkinabés. Alors, situé dans la partie sud-ouest de la bande sahélienne, sous le tropique du Cancer, un peu au-dessus du golfe de Guinée, le Burkina Faso est un pays enclavé à l'intérieur des terres, donc sans accès à l'océan Atlantique. Deux saisons contrastées rythment l'année, une saison sèche de novembre à mai due à l'Harmattan qui est un vent sec et chaud venu du Sahara, et une saison de pluie de juin à octobre. Sa superficie correspond à environ la moitié de celle de la France. Ses voisins sont le Mali au nord et à l'ouest, le Bénin au sud-est, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire au sud. C'est une société multiethnique. On recense plus de 60 ethnies réparties dans les 40 provinces que compte le pays. Donc ils sont à la fois des ethnies sédentaires, comme les Bobos, les Boabas, les Sénoufos, ou des ethnies nomades, comme les Peuls et les Touaregs, pour prendre les plus connus. Trois langues officielles sont reconnues, dont le français, et sa capitale, Ouagadougou, est située au centre du pays et fut jusqu'à la colonisation du pays par la France au début du XXe siècle, strictement interdite aux voyageurs européens. Effectivement, on n'allait pas à Ouagadougou. Alors, dans un ouvrage qui l'intitule « L'Afrique à point nu » paru en 2004, l'écrivain et photographe Philippe Bordas décrit la profonde passion des cavaliers Mossi pour leurs chevaux. Je le cite « Ouagadougou est sans doute une des seules villes au monde où les cavaliers se déplacent en liberté, traversant les avenues, les ruelles, patientant au feu rouge, près des taxis et de la nuée des petits scooters. Ici, les chevaux paissent devant les maisons basses des quartiers, ils côtoient Mercedes et BMW, pardon pour la publicité, devant la façade des riches villas. Le cheval vit et survit dans le cœur des Burkinabés, il en est l'emblème du pays, si l'on se rappelle que la signification de Ouadragogo, le nom du héros Mossi légendaire, signifie cheval mâle. De la même façon, la cavalerie fabuleuse de l'Empire Mossi est demeurée dans tous les esprits. Philippe Bordas ne s'y est pas trompé, le cheval est l'emblème national du pays, de son équipe de foot. Les étalons, ben voyons. C'est également le symbole d'un festival de cinéma, le FESPACO, dont le grand prix s'appelle l'étalon d'or. Cette passion du cheval a un mythe fondateur, c'est la légende de Yenega. Au XIIIe siècle, Nédéga, le roi du Dagomba des Mossi, subissait des attaques fréquentes des royaumes voisins. C'était un grand chef de guerre et il remportait toujours la victoire. Mais surtout, il devait ses succès à sa fille Yenega, une amazone exceptionnelle qui combattait à ses côtés. Elle vivait comme un homme, montait à cheval mieux que ses frères et même mieux que les guerriers de son père. Experte dans le maniement des armes, elle décimait les ennemis avec sa lance ou son arc. Elle armée de deux flèches qu'elle décochait simultanément. C'était un peu la mode mongole. C'était enfin elle qui entraînait les guerriers de son père au combat. Yenega était si indispensable à la sécurité du royaume que son père refusait de la marier. Lors d'une attaque menée par les tribus ennemies des Malinkés, Yenega se jeta une fois de plus dans la bataille qu'elle remporta. Sur le chemin du retour, son cheval prit peur et s'emballa jusqu'à la rivière Nakambe, l'ancien nom du fleuve Volta, un endroit très éloigné que la princesse ne connaissait pas. Sur le point de se noyer, Yenega fut sauvé par Rialé, un chasseur de fauves. Yenega choisit de ne pas rentrer chez son père. 8 mois plus tard, bien sûr, naissait un garçon que le couple nomma Ouadragogo, qui signifie, vous vous en souvenez, un cheval mâle, un étalon. D'autres mythes mettent en scène des chevaux, en particulier un présent chez les Dogons du Mali. Ce mythe raconte qu'après la création du monde par le dieu suprême Amma, celui-ci fabriqua avec de l'argile un enfant à la fois mâle et femelle, le fameux Nomo. C'est lui qui enseigna la parole aux 8 premiers ancêtres. Le premier ancêtre donc construisit une arche qui avait la forme d'un panier et qui contenait tous les objets pour permettre aux hommes de vivre. Pour libérer son pouvoir, l'arche devait flotter sur l'eau. Mais le pays était trop sec. Pour tirer les dogons d'affaires, le nomo se transforma en cheval et tira l'arche jusqu'à un lieu où la pluie tombait. C'est ainsi que l'arche fut remplie. Depuis, les dogons représentent symboliquement cette arche sous la forme d'une écuelle rituelle munie de deux poignées, dont l'une à la tête d'un cheval et la seconde la queue. Et il faut savoir que les dogons ne sont pas des cavaliers, n'est pas un peuple cavalier. Mais enfin, bon, le cheval pour eux est extrêmement... C'est, je dirais, une des poutres maîtresses de la religion et de la culture dogon. Mais on va revenir peut-être à notre époque. Aujourd'hui, les cavaliers burkinabés, propriétaires de leurs chevaux et réunis au sein d'une association, organisent chaque dimanche des courses amicales de chevaux sur l'hippodrome de la capitale d'Ouagadougou. Mais l'événement majeur attendu par tous ces passionnés, la grande course annuelle au cours de laquelle le public peut parier au PMU burkinabé, qui a été créé il y a une trentaine d'années grâce au soutien du PMU français et géré par la Loterie nationale du Burkina Faso. Des concours de voltige à travers le pays sont également organisés, au cours desquels on voit des cavaliers exécuter des figures acrobatiques sur un ou plusieurs chevaux lancés au galop. Depuis une vingtaine d'années, cette discipline équestre, qui est très en vogue, accompagne les fêtes de mariage, les baptêmes et les fêtes religieuses. L'une des figures de voltige la plus prisée est celle que les cavaliers burkinabés nomment le ping-pong. Il consiste pour le cavalier de sauter son cheval, de son cheval au grand galop, de taper le sol du pied avec force, d'où l'onomatopée ping-pong, puis de contourner son cheval par l'avant et de remonter en selle. Chaque année, enfin, un festival équestre est organisé qui s'appelle le Feshiba. Il s'inspire d'une ancienne coutume d'allégeance des chefs de province de Mogonaba, le nom que portaient les souverains du royaume Mossi de Ouagadougou. Les cavaliers recouvrent leurs chevaux, excepté leur tête, d'un caparaçon de toile épaisse, peint et brodé, sur lequel sont fixées des plaques de cuivre ciselées. Ce caparaçon, comme le tapis de selle, descend jusqu'aux genoux des antérieurs et aux jarrets des postérieurs de l'animal. La selle est très proche de la selle arabe, avec un pommeau et un trousquin très relevés. La plupart des cavaliers ont opté pour l'étrier arabe. D'autres sont restés fidèles, aujourd'hui encore, à l'étrier d'orteil, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est-à-dire c'est juste une petite barre où le cavalier pose ses orteils nu. Donc cet étrier d'ortel traditionnel en cuivre, moins complexe à fabriquer par le forgeron du coin et surtout beaucoup moins cher. Le mors est également de conception arabe. Il est muni d'une palette qui est placée dans la bouche du cheval et d'une gourmette rigide qui entoure la mâchoire inférieure de l'animal. C'est un mors extrêmement puissant qui, mal utilisé, peut devenir un véritable instrument de torture pour le cheval. En revanche, le cafesson est équipé de deux rênes placées assez haut sur le chanfrein et généralement fortement rembourré, donc confortable pour l'animal. L'association bride-cafesson est un grand classique des équitations de travail, Virginie. C'est ce même dispositif qu'utilisent toujours les cavaliers en Camargue en particulier, et je crois aussi sur les chevaux américains, les chevaux westerns. Les cavaliers sont vêtus d'une tunique qui leur descend à mi-cuisse et d'un luxueux et épais pantalon, souvent couvert de toile bleue, qui fait également office de botte. Il est aussi décoré de pièces de cuir de différentes couleurs. Traditionnellement, les couleurs de ce costume doivent s'harmoniser avec celle du caparaçon du cheval. Alors juste un mot pour terminer, nous souhaitons que ces magnifiques pays du Sahel qui traversent actuellement des épreuves difficiles puissent retrouver des temps plus sereins, des temps où à nouveau chevaux et cavaliers pourront caracoler sans crainte pour la plus grande joie des spectateurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-du-Rouergue, et vous pouvez bien sûr écouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toi Virginie, merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. À la semaine prochaine, et bien sûr, un grand bravo à tous les chevaux. Ciao, ciao.